Le mercredi, c'est Women in Tech dans le podcast AWS en français, aujourd'hui avec Julien Grouès. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast AWS en français, une nouvelle série, vous le savez, je l'avais déjà annoncé il y a quelques semaines, une série qui sera présente dans vos outils de balado-diffusion, comme aiment à dire nos collègues québécois, de vos applications de podcast tous les mercredis matins, une semaine sur deux, donc deux fois par mois, Women in Tech, l'inclusion, la diversité et l'équité. Nous essayerons d'inviter des femmes inspirantes, à la carrière inspirante, pour parler de la place des femmes dans la technologie et pourquoi c'est important de respecter ces règles d'inclusion, de diversité et d'équité. Et pour commencer cette série aujourd'hui, ben c'est pas une femme, c'est un homme. Ça peut paraître un peu contre-intuitif comme ça, mais Sarah Roy-Larentrie et Nazma Brahmi qui m'aident à préparer cette série de podcasts, nous tenions tous les trois à avoir Julien Grouès qui est VP AWS France et Europe du Sud. Julien, merci d'être là. Dis-moi, je disais, c'est contre-intuitif d'avoir deux hommes pour parler de la diversité. Alors, pourquoi toi? Pourquoi maintenant?
Bah, je pense qu'on a un rôle à jouer, Sébastien. Mais tout d'abord, bonjour et merci de m'avoir invité dans cette session parce que c'est vrai que c'est extrêmement important pour nous de pouvoir en parler. Et je pense que c'est un sujet qui doit être pris par tout le monde, et c'est pas un sujet seulement pour les femmes ou seulement pour un groupe quelconque, c'est un sujet sur lequel on doit être tous présents. Moi, je pense que en tant que directeur d'AWS en France, j'ai un rôle à jouer dans la manière dont on peut changer les choses, que ce soit au sein de notre entreprise et puis aussi plus largement dans la société, et montrer les fantastiques exemples que nous avons dans AWS, notamment en France.
Alors, c'est pas insultant de dire que tu as quelques années d'expérience. Nous, on se connaît depuis 7 ans à peu près. Tu as eu d'autres rôles avant dans la tech. Quelle était ton expérience en matière de diversité avant AWS? On viendra à AWS juste après.
Je n'avais pas vu qu'il y avait des questions autour de la diversité. Et j'ai eu en fait beaucoup de chance parce que mes deux premières expériences professionnelles étaient dans des entreprises qui étaient extrêmement diverses, que ce soit en termes de culture, en termes d'hommes-femmes. Et donc, pour moi, c'était extrêmement naturel d'être dans des environnements différents. Et c'était dans des environnements dans lesquels je m'épanouissais, dans lesquels je trouvais qu'il y avait des dynamiques extrêmement intéressantes. Et puis, un jour, j'ai travaillé dans une entreprise qui n'avait aucune diversité, où tout le monde était comme moi. Et j'ai été particulièrement malheureux. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai sujet. Ensuite, j'ai continué dans le monde du conseil où il y a peut-être moins de problèmes de diversité que celui de la technologie un peu plus pure comme celle que nous avons chez AWS ou dans ce genre d'entreprise. Et c'est là où vraiment, en arrivant chez AWS France maintenant il y a 6 ans, c'est vraiment là où je me suis aperçu qu'il y avait un problème et que je devais jouer un rôle beaucoup plus important pour aider à le résoudre.
Ça t'a marqué en arrivant chez AWS, un manque d'inclusion, de diversité chez AWS France spécifiquement il y a plusieurs années?
Oui, c'est quelque chose qui m'avait effectivement marqué en arrivant. Premièrement, nous avions surtout d'ailleurs un problème de diversité homme-femme. Je pense que sur d'autres sujets de diversité, on avait peut-être moins de problèmes. Mais sur la diversité homme-femme, notamment dans la représentation des femmes dans les équipes de management d'AWS en France. Et c'est par là que j'ai décidé de commencer pour montrer l'exemple. Et puis ensuite, on a continué et je remercie toutes celles et ceux qui m'ont accompagné dans cette transformation parce que ça n'a pas été facile, c'est lent aussi. Et puis, on en est encore qu'au début malheureusement, donc il reste énormément à faire. Mais comme je te le disais, je pense que la première chose, c'était vraiment dans les équipes de management. Nous avions une équipe de management qui ressemblait beaucoup à toi et moi, Seb. Et pour moi, c'était important de le changer.
Et c'est de ça qu'on va parler, c'est comment tu as changé. Mais avant le comment, pourquoi, quelle est la valeur ajoutée que toi, tu perçois en tant que dirigeant d'avoir une équipe diverse autour de toi, que ton staff, que ton équipe de directeur et de leader soit diverse et bien représentée par rapport à la population et à nos clients?
Alors déjà, on va commencer par ce qui est évident, puisque maintenant toute la recherche le montre, les équipes les plus performantes sont des équipes diverses. Ça, il y a un point, plus personne, je pense, ne peut revenir là-dessus. Toutes les études le montrent, et cela maintenant depuis longtemps. Ensuite, il y a un aspect qui, pour moi, est un peu plus personnel, qui est que moi, je m'épanouis dans les équipes diverses. Donc, pour moi, pour être heureux au travail, je dois faire partie d'une équipe diverse, sinon je ne suis pas heureux. Et comme tu sais, je cherche évidemment le have fun dans le work hard, make history and have fun. Pour moi, l'autre sujet, c'est que les équipes qui s'amusent performent et les équipes qui performent s'amusent. Donc, il y a ce double sujet. Il y a aussi un sujet de customer obsession. Notre entreprise doit refléter aussi nos clients. Et puis ensuite, si je reste sur nos LP, évidemment, on a une responsabilité de continuer de développer les équipes et de faire que tous nos employés se sentent bien au travail, que tout le monde ait les mêmes opportunités, que tout le monde puisse s'épanouir. Et ça, je pense que en tant que représentant d'AWS en France, pour moi, c'est extrêmement important que les équipes puissent s'épanouir, quelles que soient les origines, quelles que soient l'appartenance, quelle que soit la religion, quel que soit le sexe.
Et c'est là que c'est important de t'avoir, toi, en tant qu'invité de cette série du podcast AWS en français Women in Tech, en tant que directeur, que leader d'une entreprise en France. Comment est-ce que tu peux changer les choses? Parce qu'il y a une partie qui est probablement très concrète avec une liste de tâches et d'actions que tu as prises, mais il y a une partie qui est aussi liée à la mentalité de l'entreprise, de la mentalité des gens. Donc, quelles sont les actions que tu as prises, oui, c'est correct, une fois que tu es arrivé en place il y a quelques années?
Alors, la première chose que j'ai faite, c'était de restructurer une équipe de management avec plus de diversité. Donc d'aller chercher déjà les talents féminins que nous avions dans l'entreprise, de les aider, de les mettre dans les bons jobs. On a eu beaucoup de personnes qui ont changé de job pour nous structurer une équipe. Évidemment d'aller en chercher en externe aussi, et donc d'avoir des leaders qui viennent nous rejoindre. Il y en a qui nous ont rejoints d'autres entreprises, d'autres qui nous ont rejoints d'autres groupes d'Amazon, d'autres personnes qui ont continué leur progression en interne. Donc ça, comme je te disais, c'est un peu la partie facile de structuration, puisqu'on repart sur des talents et des personnes existantes. Ensuite, c'était de continuer d'être extrêmement attractif pour les talents féminins, faire que les femmes aient envie de travailler pour nous. Un des sujets chez AWS en particulier, c'est qu'il y avait beaucoup de femmes qui n'avaient pas envie de travailler chez nous, parce qu'elles ne considéraient pas que l'entreprise était woman-friendly. Donc ça, il a fallu aussi changer cette perspective. Un travail qui a été fait, notamment avec Sonia, ça a été de réécrire les descriptions de postes. On s'était rendu compte que les descriptions de postes n'étaient pas forcément très inclusives, ou ne montraient pas pourquoi c'était intéressant pour les femmes de travailler chez nous. Et puis ensuite, de continuer de mettre en place des programmes d'accompagnement. Donc ça, c'était la première étape. La deuxième, ça a été de continuer de travailler avec les femmes qui travaillent chez nous pour mieux comprendre leurs attentes, mieux comprendre comment on pouvait les accompagner, comment elles voyaient les choses. Et grâce à ça, on a eu de nombreux retours qui nous ont permis d'améliorer un certain nombre de choses et aussi de les accompagner dans leur travail et de travailler aussi avec toutes les équipes de management, que ce soit des hommes ou des femmes, sur des formations autour de l'inclusivité, de casser les stéréotypes, de casser les biais et de s'assurer qu'on travaille là-dessus. Et ça, c'est une des choses dont je pense que je suis le plus heureux de voir maintenant au travail. C'est, un, dans nos réunions, souvent, lorsqu'il y a un biais ou un commentaire, celui-ci va être cassé. Donc, quelqu'un va lever la main et dire « Non, ça, c'est pas un commentaire qui est représentatif, c'est pas inclusif. » Donc, on a mis cette culture en place qui permet de lever la main et de le dire. On doit encore travailler parce que je pense qu'il y a encore de nombreux progrès à faire. Mais ça, c'était un des points. Et le deuxième point, c'est que lorsqu'on a structuré AGS en France, donc depuis novembre, on a eu de nombreux changements, comme tout le monde le sait, en termes de management et d'équipe. Mais on avait des équipes de management femmes qui étaient prête et disponible pour reprendre de nombreuses positions qui étaient ouvertes. Et donc, ça a montré qu'on a réussi à travailler aussi sur les successions et les plans de succession. Et le troisième point qui va être extrêmement important maintenant, c'est de continuer à accompagner les femmes qui nous rejoignent aujourd'hui en début de carrière chez AWS, les accompagner à se développer, continuer de performer, de s'épanouir en tant que personne. Et le dernier point qui va être extrêmement important, beaucoup plus long terme, c'est d'accompagner l'industrie pour faire qu'il y ait plus de femmes qui aient envie de devenir ingénieurs dans la tech, développeurs, programmeurs, parce qu'on voit quand même qu'il y a un problème aujourd'hui dans les pourcentages d'étudiants qui font que si on n'adresse pas le problème à partir de 13-14 ans, on continuera d'avoir des problèmes de diversité plus tard.
Ouais, c'est pas qu'un problème des entreprises, c'est un problème de la société en général, et nous agissons là où on peut au niveau des entreprises, mais on a une responsabilité, et je le dis souvent en tant que parent également, en tant qu'oncle, que frère. Donc, pour résumer ta réponse, les choses que tu as mis en place, c'est identifier les femmes à fort potentiel et développer leur carrière pour celles qui étaient déjà là, mais aussi mettre en place du recrutement, revoir les job descriptions, travailler sur la manière dont on conduit les interviews pour donner envie à d'autres femmes de venir travailler chez AWS, et puis de la formation pour tout le monde, les femmes et les hommes, pour casser les biais, détecter les biais déjà, avant de pouvoir les casser et pouvoir les casser. Je l'ai dit dans mon intro, tu gères AWS France, mais depuis un peu plus d'un an également l'Europe du Sud, donc Italie, Espagne, Portugal, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'il y a une dimension culturelle, nationale, franco-française? Est-ce qu'il y a plus de biais en France? Est-ce que ça se passe mieux ou moins bien que dans les autres pays dans lesquels tu travailles?
Non, je pense que la situation en Europe est à peu près la même partout. Hein. On voit que aujourd'hui, dans ce qu'on appelle les STEM, donc les personnes formées techniquement aux technologies scientifiques de programmation, on voit qu'en Europe, il y a moins de 20% de femmes. Donc la situation, elle est la même à peu près partout. Après, les biais, alors je vais pas rentrer dans les stéréotypes, mais les biais sont pas forcément les mêmes dans tous les pays. La perception non plus. Par contre, je pense que ce qui fonctionne, c'est à peu près la même chose dans tous les pays. Donc, quand je participe à des tables rondes ou à ce genre de conversation, une des raisons pour lesquelles je le fais, c'est pour aller apprendre et chercher de bonnes pratiques. À chaque fois que je vais sur une table ronde, j'apprends de nouvelles choses que je peux mettre en pratique ou que je peux essayer de mettre en pratique. Et comme je te disais, on en a encore qu'au tout début. Aujourd'hui, je pense que chez AWS en France, on a 58% de nos managers qui sont des femmes. Donc ça, je pense qu'on est bien.
Parité, oui.
Ouais. Mm-hmm. Par contre, on a moins d'un quart de femmes dans nos équipes. Donc on a encore énormément, et je parle uniquement de cette diversité de genre, donc on a encore énormément de progrès à faire. Mais donc les actions qu'on peut mettre en place pour créer un environnement inclusif sont les mêmes à peu près partout. Après, les biais à casser sont parfois un petit peu différents. Les exemples sont un petit peu aussi différents, mais en général, la problématique, que ce soit en France ou dans le sud de l'Europe, sont les mêmes.
Un des nouveaux leadership principles d'Amazon a ajouté récemment, parle de responsabilité, et en disant que ben voilà, quand on a un grand impact, on a beaucoup de responsabilité aussi. Est-ce que tu vois AWS comme étant un rôle modèle dans l'industrie IT, auprès de nos clients, auprès de nos partenaires?
Je sais pas si on est rôle modèle. J'espère qu'on le sera. En tout cas, on y travaille dur. Je pense que on essaye de faire des choses et de faire avancer. Je pense que pour vraiment être rôle modèle, il va falloir qu'on continue de développer des programmes plus en amont, des programmes de développement comme ce qu'on a lancé avec Amazon Future Engineer ou Get IT. Donc vraiment adresser le problème en amont. Je pense que ce qu'on fait au jour le jour, on a encore aussi beaucoup de progrès à faire. Donc avant d'être rôle modèle, je pense qu'on a encore beaucoup de progrès.
Mais au moins, tu penses qu'on a une influence auprès de certains de nos clients ou partenaires?
Oui, je pense qu'on commence à avoir une influence, notamment grâce à des actions que les équipes d'inclusion, diversité, équité ont mises en place. Et je les en remercie parce que c'est un travail que ces équipes font au jour le jour, et tu les as cités en introduction. Donc, un immense merci. Et je pense effectivement qu'on commence à avoir un impact. L'année dernière, on a lancé pendant le summit les premières tables rondes de Women in Tech avec Mélan.
Qui est la VP stockage chez AWS.
Stockage, data. Storage. Bon. Mm-hmm. Et et qui a aussi une passion pour la diversité dans la technologie. Donc, c'était une première table ronde qui a eu beaucoup de succès, qui a permis un grand partage entre les participants. Cette année, on a relancé un parcours Women in Tech et je remercie toutes celles et ceux qui ont y participé. Donc oui, je pense qu'on a des forums, on a des plateformes qui nous permettent de communiquer ce que nous faisons, qui nous permettent d'organiser des rencontres, qui nous permettent de réaliser des échanges d'idées. Comme je te disais, il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises qui mettent des choses en place et on n'est pas forcément toujours en train de devoir réinventer la roue quand certains l'ont déjà fait. Et cette année, les tables rondes que nous avons pu avoir avec la CIO de Airbus, par exemple, l'année dernière, les personnes en charge de la diversité chez Salesforce, on a eu de nombreux exemples qui étaient extrêmement intéressants.
Oui, il y a un stand également depuis 2 ans au Summit qui attire quand même pas mal de monde, où il y a beaucoup de gens qui viennent avec des questions, en demandant concrètement ce qu'on peut faire. Sur un plan plus personnel, nous avons un autre point commun, outre être middle-aged, white, masculin. Je crois savoir que tu as 2 filles, moi j'ai une ado de 18 ans, une grande ado de 18 ans. Comment tu abordes le problème avec elle?
On n'en parle pas forcément énormément avec mes filles. Je me souviens quand même d'une fois où une de mes filles était rentrée à la maison et il y avait ma belle-mère qui était là. Et ma fille avait dit qu'elle aimait le foot et qu'elle aimait les maths. Et ma belle-mère lui avait répondu qu'elle aimait les choses de garçon. Je me suis dit, voilà,
Exactement.
ça fait 7 ans d'éducation que je vais devoir recommencer. Mais donc ça remontait, mais ça montre comme quoi les biais sont aussi présents dans les familles. Et j'ai effectivement une fille qui a plutôt envie de faire des études d'ingénierie, donc je l'accompagne dans cette direction-là. Et puis notre fille qui a plutôt envie d'aller vers des études de droit. Mais je pense que c'est important effectivement d'accompagner ces enfants dans les voies qu'ils aient envie de prendre en fonction de leurs compétences, en fonction de leur appétence et de les accompagner. Et c'est vrai que de temps en temps, notamment avec ma fille qui a envie de faire des études plutôt scientifiques, je lui parle du fait que c'est un environnement où aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de femmes, mais qu'il faut surtout pas que ça l'empêche ou que ça lui donne des doutes par rapport au fait qu'elle pourra réussir et que si c'est ce qu'elle veut faire, on sera là pour l'accompagner.
Ouais, c'est ça, c'est un message sur lequel moi je travaille beaucoup aussi, c'est de dire, c'est possible, voilà, tout est possible, regarde, il y en a d'autres qui l'ont fait, si c'est ça que tu as envie de faire, vas-y, et essaie de casser ces petites phrases au quotidien dans les familles, qui classifient un peu ou qui comportementalisent
Ouais,
certains comportements.
mais je pense que le rôle des exemples, et c'est pour ça que je remercie, on est vraiment sur le sujet de la diversité homme-femme, dans ce call, mais je remercie énormément toutes les femmes chez AWS et en dehors qui sont des exemples. Et c'est pour ça que je remercie celles qui viennent aussi à nos tables rondes pour montrer, pour communiquer, parce que, et pour les personnes qui travaillent chez nous, qui sont en début de carrière ou même en milieu, ou même pour les hommes, de montrer ce que les femmes font aujourd'hui, c'est absolument fantastique. Je sais pas si tu te souviens, il y a quelques années, ça devait être pendant le Covid, je pense, ou juste à la fin du Covid, parce que Tanuja était déjà là. Elle avait organisé pendant un des kick-offs des tables rondes, et il y avait la PDG de Take-Two, qui est une boîte de jeux vidéo, qui était venue parler de ce qu'elle faisait. Et cette PDG avait des cheveux violets. Et je me souviens que j'avais fait, il y avait une de mes filles qui était à la maison et je l'avais fait venir pour écouter ce qu'elle disait. Et elle me disait, ah, mais tu peux être patronne avec des cheveux violets. Et
Eh
donc,
oui.
mais ça montre le rôle des exemples.
Et il y en aura plein des exemples dans le podcast AWS en français, puisqu'on a une longue liste d'invités déjà prévue jusqu'à quasiment la fin de l'année. Toutes les 2 semaines, il y aura des femmes qui viendront expliquer leur carrière dans la tech. Qu'est-ce qui tient réveillé la nuit? Ou autrement dit, quelles sont les initiatives qui te motivent là maintenant, sur lesquelles tu travailles en ce moment en matière de diversité, d'inclusion, d'équité?
Moi, je pense que comme je te le disais, de continuer d'avoir des plans de succession qui font que les femmes sont bien représentées ou toutes les autres diversités sont bien représentées pour faire que on continue de travailler sur le futur. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est continuer de travailler sur la société en amont et de continuer de travailler, de montrer les exemples, de travailler et d'accompagner les étudiantes, les étudiants. C'est pour ça que j'aime particulièrement des groupes et des initiatives comme Amazon Future Engineer, parce que je pense que ça fait ça donne un exemple et ça permet à des jeunes de se développer. Et même si on parle pas de milliers de personnes ou de dizaines de milliers, je pense que c'est extrêmement important et intéressant. Je continue notamment au G7 et au B7 de participer à des groupes de travail et de réflexion sur ce qu'on peut faire. Donc ça, ce sont les sujets sur lesquels je travaille le plus. Et je regarde énormément, grâce aux outils que Amazon nous met à disposition, notamment Connexion, mais pas que. Je travaille énormément sur ces sujets-là pour m'assurer que le sentiment de nos employés est positif, que nos employés voient des progrès, et puis surtout de créer une culture où lorsqu'il y a des problèmes, on peut en parler et on peut les adresser et on peut les résoudre, parce que comme je le disais, on a encore énormément à faire.
Connexion pour ceux qui travaillent pas chez AWS ou chez Amazon qui connaissent pas, c'est un outil de feedback, un outil de collecte de données. Tous les matins, quand on ouvre notre laptop, on a une question, on doit répondre, ça prend 5 secondes et les managers reçoivent le résultat de ces données, surtout l'évolution dans le temps par rapport aux questions qui sont posées. C'est un outil extrêmement efficace pour collecter du feedback en continu sur la qualité de l'environnement de travail. J'aime bien terminer cette conversation avec la même question pour tout le monde. Qu'est-ce que les hommes qui nous écoutent peuvent faire, peuvent changer dans leur comportement dès aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour aider?
Alors la première question, c'est de devenir des alliés.
C'est quoi un allié?
Un allié, c'est quelqu'un qui prend en considération ce qui se passe et qui aide à changer les choses. Il faut absolument aider à transformer les perceptions, travailler d'ailleurs en introspection, hein, comprendre ce qui nous motive et comment changer les choses. Et je pense qu'on a tous un rôle à jouer là-dessus. Donc, un conseil aux hommes, devenez des alliés.
Devenez des alliés. Julien Groès dans le podcast AWS en français, un allié certainement de Women in Tech. Et puis dans 2 semaines, on recevra une femme cette fois-ci. On aura Louise Frion de l'Institut Montaigne qui était d'ailleurs présente au Summit AWS en avril cette semaine. Elle était à la table ronde que tu as animée, ouais. Julien.
Excellent. Je recommande à tout le monde d'écouter dans 2 semaines.
Vous parliez du panel du syndrome de l'imposteur, un panel qui est disponible d'ailleurs en vidéo et je mettrai le lien dans les notes de ce podcast. Julien, merci d'avoir répondu à mes questions.
Merci à toi et merci d'avoir pris le sujet.
À très bientôt pour un prochain épisode du podcast AWS en français. Vendredi, on parlera technologie avec Mango P et puis donc dans 2 semaines, Louise Frion, je l'ai déjà annoncé. Rendez-vous vendredi, d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.